Et puis dernièrement, il demeure avec ses vues en harmonie avec celles de ses compagnons. Et les vues sont les vues qui sont nobles, qui conduisent à l'expansion, qui conduisent ceux qui agissent en conformité avec elles vers la fin complète de la souffrance et du stress. Vous connaissez le stress dans le temps du Bouddha, hein? C'est conduire à la fin de la distress. Donc je vais juste vite faire un petit mot sur les vues dans le bouddhisme. On utilise ce mot vue pour dire notre vision du monde. C'est nos vues qui nous font agir. Donc je ne parle pas du tout de dogme ou de croyance. C'est pas une question d'apprendre ce qu'il faut croire et se mettre à le croire comme tout le monde, comme il faut. C'est très pragmatique. Les vues, si on croit qu'on ne peut rien changer de toute façon parce que tout est fixe et permanent, on ne va pas agir pour faire quoi que ce soit. Si on croit que nous-mêmes, nous serons toujours tels que nous sommes, nous n'allons pas faire un effort pour évoluer. Et si nous croyons que des choses sont permanentes et qu'elles vont nous donner une satisfaction complète, on va continuer à essayer de les garder et les avoir. Donc c'est les vues que nous avons en fond de nous. C'est les vues, les lentilles à travers nous regardant le monde. Et c'est très très difficile parfois à s'en rendre compte parce qu'on a l'habitude, elles sont toujours là devant nos yeux. Mais en fin de compte, c'est ça la base de notre pratique, ou c'est ça qui va vraiment nous faire avancer vers l'éveil, c'est de changer nos vues fondamentales, de commencer à voir les choses vraiment clairement telles qu'elles sont, de voir la réalité des choses. Donc c'est essentiellement les trois lakshana, l'impermanence, le non-soi et la souffrance, et tout ce qui en découle. C'est ça quand on dit voir les choses telles qu'elles sont, c'est essentiellement ça dont on parle. Donc en fait on essaie d'harmoniser nos vues avec les vues de la Sangha aussi. Et là, je veux vraiment dire très très clairement, ceci n'est pas le conformisme. On n'est pas en train d'essayer de penser comme tous les autres. On n'est pas du tout en train de dire, un tel membre de l'ordre dit ça, il faut que je croie la même chose. C'est pas du tout ça. Parce que voilà, en fait, dans le bouddhisme, les vues fondamentales, les vues justes fondamentales sont vraiment très peu. Ça se résume, comme j'ai dit, aux trois lakshana. À partir de ça, si c'est bien de méditer avec les yeux ouverts ou fermés, ça, c'est pas une vue qui a d'importance pour la vie spirituelle et pour notre éveil. Et il peut voir 10 membres de l'ordre qui croient vraiment fortement qu'il faut méditer avec les yeux fermés et 10 autres qui croient vraiment que... je prends un exemple trivial, voilà. Voilà. Mais c'est fascinant comme en fait, justement, notre discussion hier par rapport à ce qu'on peut et peut pas faire dans la Sangha avec les amis spirituels, d'une certaine manière, il y a des vues derrière ça. Il y a des vues par rapport à ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Donc, harmoniser nos vues, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous voir les choses de la même manière? Est-ce qu'on doit tous voir les choses, avoir les mêmes vues sur toutes choses? Sûrement pas. On serait tous morts s'il fallait faire ça. La communauté spirituelle serait morte. Il n'y aura plus d'intérêt. Mais je crois qu'il faut que nous harmonisons nos vues. On essaie de les aligner de plus en plus avec la vision claire des choses telles qu'elles sont. Et donc, pour un certain niveau, il faut quand même respecter et écouter bien les vues et les paroles des personnes qui semblent avoir une vision plus claire que nous. Parce qu'il est bien probable que leurs vues sont un peu plus claires que les nôtres aussi. Mais quand même, il ne faut pas les prendre aveuglement, même aussi éveillés que la personne semble être. Il ne faut pas les prendre aveuglement. Et je crois que pour moi, comment on harmonise nos vues? On les discute, on en parle. On va vers quelqu'un et on se dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Et avec le but de comprendre, avec l'idée de comprendre, d'apprendre. Et pas juste pour défendre les nôtres. Je crois que si on va aller discuter les vues de quelqu'un, avec quelqu'un, il faut aussi être ouvert à la possibilité de changer notre point de vue. Si on se trouve avec un conflit de vision ou de vue, il faut pas juste aller essayer de convaincre l'autre qu'il a tort, mais aussi d'être ouvert à arriver peut-être à tous les deux à quelque chose de complètement différent. Et je crois que c'est là où la pratique de la sangha commence à être vraiment intéressant. Ça devient, ça nous mène encore au-delà de juste moi en tant qu'individu qui vit à côté et avec, mais sans trop toucher trop intimement les autres. C'est là où on commence à, si on découvre qu'on a deux vues sur quelque chose de très différent, pour l'harmonie de la sangha, il faut s'accommoder, il faut commencer à se comprendre. On peut pas juste dire, tant pis, je parle plus à cette personne-là, parce que ça conduit pas à l'harmonie, ça conduit pas à l'unité. Et en fait, on commence à déjà à vivre ça quand on voit, il y a quelqu'un qui veut mettre du yaourt dans la sauce de salade, ou il y a quelqu'un d'autre qui n'aime pas ceci ou cela, ou quelqu'un qui aime les fenêtres ouvertes et l'autre qui les aime fermées. Et derrière tout ça, il y a des vues. c'est une question de préférence, oui, mais souvent il y a des vues. Des courants d'air, c'est mauvais pour la santé, ou ceci ou cela. Donc, c'est là où on commence à vraiment nous ouvrir à la possibilité de encore d'aller au-delà de cette idée limitée de nous-mêmes et toutes nos vues que nous avons construites et gardées jusqu'à présent pour garder notre sens de nous dans le monde. C'est là où la sangha nous aide à nous libérer, en fait, de nos vues fixes de nous-mêmes et à nous ouvrir vers d'autres horizons. Donc voilà, juste pour terminer, je vais juste relire le pourquoi on fait tout ça. Donc pour moi, en fait, c'est quelque chose que le Bouddha n'a pas dit, mais pour moi, un des pourquoi, c'est parce que ça nous mène vers un état pour nous-mêmes, un état plus clair et plus comme un Bouddha, quoi, plus éveillé. Mais je vais juste rappeler les conditions, ce que le Bouddha essaie d'engendrer avec ces conditions. C'est l'amabilité, les sentiments de tendresse, de respect, de fraternité, une absence de litige, l'harmonie et un état d'unité. Et je trouve que c'est une belle description, en fait, de ce que la sangha peut être à son plus haut. Oui. Et juste une dernière chose, c'est que c'est vraiment un chemin, c'est un processus, ça prend longtemps. Et en fait, c'est le processus qui est important, presque plus que le résultat. Je crois que vraiment, c'est le processus d'essayer de pratiquer tout cela, qui rend une sangha vivante et intéressante. Voilà quelque chose auquel aspirer.